أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique, mes chers frères et sœurs, comme d'habitude. Nous étions arrivés à l'infaillibilité lorsqu'on parle de l'isma, l'infaillibilité soit des prophètes de façon générale et en particulier des imams. Et nous avons essayé de parler et définir l'infaillibilité, aussi les conditions et les nécessités de l'infaillibilité et pourquoi l'imam a besoin de cette infaillibilité. Et nous avons essayé de dire que si les téléspectateurs ont essayé de nous suivre pendant l'émission passée, nous avons dit comme ça que l'infaillibilité d'abord est basée sur deux éléments. Le premier élément, c'est que c'est un don divin. Le don divin devait parler de cette faveur divine d'abord, d'un côté, et d'avoir accordé aux imams, étant bien que les rendre, si on peut s'exprimer ainsi, infaillibles, et aussi de proposer alors pour nous en tant que les fidèles et les musulmans, ces imams-là qui ont pour rôle principal réellement de nous guider et aussi de nous éclaircir à ce qui concerne les questions islamiques et notre vie quotidienne. Puisque l'islam, comme nous l'avons bien dit, est un système bien donné qui contrôle la vie de l'être humain, et c'est alors le Coran qui devient alors une balance de cette vie et une notice proposée par Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir mieux vivre dans cette vie-là. Compte tenu de l'évolution des temps et de l'espace en ce qui concerne les problèmes récents qui se présentent aux musulmans, il est important que l'imam soit parmi nous pour adapter ces problèmes-là qui sont récents, qui n'étaient pas dans le temps du prophète, qui sont récents et réellement aux enseignements islamiques. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, il est important aussi qu'on puisse avoir quelqu'un parmi nous qui puisse réellement mettre en pratique les prescriptions coraniques afin que nous puissions réellement se référer à cette personne qui devient alors une référence pour nous, un exemple à ce qui concerne son comportement quotidien, et pas seulement son comportement que nos opis puissent aussi l'application aussi réellement de ses prescriptions. Il y a aussi ce côté, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé les imams afin qu'ils puissent réellement, que je vais parler ainsi, de sauvegarder la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ces imams sont nommés par le prophète lui-même directement, et c'est ce que nous avons dit, ce n'est pas par un conseil consultatif qui a dégagé comme résultat un imam, un successeur. Les hommes ne peuvent pas réellement donner un successeur de celui-là même qui a été nommé par Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut que le successeur soit nommé par Dieu directement ou par indirectement. Et directement ici, on parle réellement lorsque le prophète nous dit que lorsqu'il a reçu la révélation, la première révélation concernant l'islam, il voulait appeler sa communauté réellement à l'islam. Il a fait cet appel-là, la communauté et les chefs des tribus qui étaient à la Mecque ont essayé de refuser cet appel, n'ont pas répondu réellement et favorablement, effectivement, à son appel. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, après, il avait nommé directement Imam Ali comme étant son calife, étant son successeur et aussi étant son lieutenant. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que nous ne puissions pas réellement s'attarder sur cette question pour dire que l'imam, quel serait le rôle de l'imam parmi nous. Le rôle est tout à fait clair et c'est ce que nous avons essayé avec les éléments que nous avons pu donner de façon générale, définir réellement le rôle de l'imam. Et aussi, nous avons dit qu'une fois l'imam est nommé, donc la nomination est là. Après la nomination, il doit être, ça fait partie réellement de caractéristiques de l'imam, qu'il doit être réellement aussi infaillible que le prophète. Donc l'infaillibilité de l'imam, nous avons parlé et nous avons dit que l'infaillibilité n'est même pas en congé, si on peut s'exprimer ainsi, la volonté de l'imam. L'imam a une volonté d'agir et de ne pas agir. Et c'est ce que le Coran nous dit, « Inna hadaynahu sabil, imma shakiran ou imma kafura ». Et je les ai guidés vers le deux chemins. C'est-à-dire que le chemin, imma soit sabilain, c'est-à-dire que le deux chemins, imma shakiran, il devient quelqu'un qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qui respecte les prescriptions, parce que le remerciement d'Allah n'est pas seulement de dire Dieu merci ou Alhamdulillah. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde comme fortune, comme connaissance, science, comme aussi la santé, il faut essayer de mettre cette santé, cette fortune, etc., et cette science à la disposition de l'islam, à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui est le vrai remerciement à ce qui concerne si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un bonheur. Ce n'est pas seulement oui, ça fait partie de dire Shukrulillah, c'est tout à fait important, mais le grand remerciement réellement qui est recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est rien d'autre que d'utiliser tout ce que vous, Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde comme science, comme faveur, de l'utiliser à bon escient dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, lorsqu'on parle de l'imamah, donc nous ne parlons pas de l'imamah en tant qu'un simple khalife, qui est nommé par peut-être une communauté qui est la version de d'autres personnes ou d'autres écoles, mais cela n'est pas notre version, ni la version des Ahlul Bayt. La version des Ahlul Bayt est que l'imam doit être nommé par le prophète lui-même, et qui dit que nommé par le prophète, et effectivement, il est nommé par Dieu. Donc, c'est pour cette raison que nous avons parlé directement, parce que Dieu, le prophète, ils ne sont rien que les représentants de Dieu sur la terre. Donc il y a ce côté, il y a aussi l'imam peut nommer un autre imam, et c'est ce que nous avons constaté. Si vous essayez de vous intéresser un peu à la biographie de nos imams, les 12 imams chiites, et vous allez trouver qu'il y a l'autre, ceux qui sont venus après Imam Ali alayhi salam, et vous allez trouver qu'ils ont été nommés soit par Imam Ali aussi, soit par Imam Hussein, parce que Imam Ali a essayé de nommer Imam Hassan et Imam Hussein ensemble. Il a même dit que c'est dans son testament que Imam Hassan devient l'imam, et s'il n'est pas là, que Imam Hussein puisse prendre la relève, alayhi salam. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsqu'on parle de l'imam. Mais ce qui est plus important ici, lorsqu'on parle que l'imam, il est infaillible. Donc, l'infaillibilité du prophète, les gens ont essayé de parler comme si son infaillibilité, dans un contexte bien donné, se dégageait réellement de la révélation, parce qu'il avait reçu la révélation. Parce que lorsque vous faites la comparaison des idéologies, vous allez trouver que nos frères sunnites, ils acceptent l'infaillibilité, mais l'infaillibilité dans un contexte bien précis. Et le premier contexte est que dans la perception de la révélation, on parle que le prophète, il est infaillible dans la perception. Et pas seulement aussi dans la diffusion de ces messages-là, il est aussi infaillible. Mais dans les pratiques, il peut faire des erreurs. Et c'est ce que nous avons constaté dans les livres, effectivement. Et vous allez trouver cela. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on essaie de juger cela, nous, on parle de l'infaillibilité. On dit que le prophète, il ne fait pas d'erreurs, il ne commet pas de péchés. Mais aussi, il n'oublie pas, et effectivement, il est important que nous puissions parler. Mais seulement qu'il faut constater que lorsque vous essayez de vérifier les livres sunnites et chiites, vous allez trouver de la part de l'un et l'autre que l'imam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prière avec ses disciples, qui il a oublié peut-être que de rendre 4 rakats en 2 rakats, jusqu'à les disciples ont essayé de lui poser comme question. Et il y a eu une nouvelle révélation à ce qui concerne la prière ou pas. Et le prophète a demandé qu'est-ce qui s'est passé. On a dit que le prophète, réellement, on devrait faire 4 rakats et vous avez rendu ces 4 rakats en 2 rakats. Donc en réalité, le prophète, on dit que le prophète ne fait pas d'erreur, parce que cette erreur-là peut essayer de l'amener effectivement à commettre, au faire des jugements, effectivement, si on peut s'exprimer ainsi, mal placé par l'erreur ou par l'oubli de certaines choses. Ils ne sont pas arrêtés même par là, qu'il y a des hadiths qui se trouvent dans ce livre sunnite, et vous allez trouver que chez nos frères sunnites, que le prophète, il avait même oublié certains versets, et c'est un des disciples qui était en train de lire le Coran, et il a dit que tu m'as rappelé d'un verset très important. Ça dit qu'il le rappelle, ça dit qu'il avait oublié ce que Allah lui-même l'avait enseigné. Donc vous voyez, il a fallu qu'un disciple puisse relire ce verset coranique pour qu'il puisse réellement se rappeler. Mes chers frères et sœurs, nous disons que non, le prophète ne peut pas oublier, il ne peut pas d'oubli, parce que l'oubli généralement vient de la négligence, mes chers frères et sœurs, et le prophète n'est pas négligent, effectivement. Vous allez trouver que dans les livres chiites, que Cheikh Sadouq essaie de dire que le prophète, oui, il oublie, mais l'oubli du prophète, il est expliqué comme étant bien une faveur, mais la majorité des savants ont refusé catégoriquement que l'oubli du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui parle du prophète Mohammed parle aussi des imams. Lorsqu'on parle de l'infaillibilité des imams, là on met devant nous réellement toutes ces questions-là concernant l'infaillibilité des prophètes. Ils ne sont pas des prophètes, mais ils essaient de profiter aussi, de bénéficier de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, sauf la réception de la révélation, la division, etc. Ils bénéficient tout ce que les prophètes avaient pour pouvoir mieux sauvegarder la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu sachant bien que pour pouvoir bien garder cette religion, il faut des hommes aussi ainsi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est tout à fait clair, et nous avons donné comme un exemple aussi très très concret lorsqu'on parle, mes chers frères et sœurs, des hadiths au Saqalain. Hadith Saqalain qui explique « Inni tarikum fiyukum Saqalain, kitab Allahi wa itrati ahl bayti » Et nous avons essayé d'expliquer cela. Mes chers frères et sœurs, je vous laisse des choses lourdes, des choses précieuses pour garantir votre foi. Cela est très important. Lorsque notre foi, le prophète voulait quitter ce monde, voilà ce qu'il nous a proposé dans Ghadir al-Khum, 90 jours avant son décès, avant son voyage éternel. Il a essayé de nous proposer ce hadith, étant bien pour dire que nous devons suivre Ahlul Bayt pour ne pas s'égarer. Lorsque nous avons essayé d'abandonner Ahlul Bayt, il y a eu des divergences entre les musulmans et ce hadith que nous avons essayé. Le prophète avait dit que ma communauté allait se diviser en 73 communautés, 63 groupes, si je peux m'exprimer ainsi. Et tous les 72, le groupe de 72 partis se trouve dans l'enfer, un seul parti, mais il a dit que quoi? Que ce dernier parti réellement qui va se retrouver dans le paradis, ce n'est rien d'autre que ceux-là qui ont accepté et la wilayat de l'imam Ali alayhi salam. Ils ont accepté aussi que l'imam Ali soit le lieutenant après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le successeur légitime après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'aimer et le suivre dans ses traces et sa tradition. Ce sont ceux-là qui sont sur le vrai chemin. Voilà ce que le prophète nous dit, mes chers frères, c'est tout à fait clair. Mais la question qui se pose réellement, qui est une question aussi fondamentale concernant la science de cet imam. Parce qu'on parle de l'autre côté, le prophète, son infaillibilité se dégage de la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait par la révélation. Mais ici, avec l'imam qui ne reçoit pas de révélation, et quelle alors la source de cette science-là, et quelle est la limite de cette science? Elle est égale à la science du prophète ou pas? Ou est au-dessus de la science du prophète? Vous voyez, lorsqu'on parle de tout ça, c'est pour vous éclaircir, mes chers frères et sœurs, sur un point. Parce que si la science des imams se limite seulement qu'à une science quelconque, mes chers frères et sœurs, et vous allez trouver que l'imam aussi sera aussi éprouvé, si on peut s'exprimer ainsi, par des erreurs ou soit par des oublis, comme a été dit par certaines personnes. Mes chers frères et sœurs, non, en réalité, lorsqu'on parle de la science de l'imam, donc on rentre dans la définition de la science. La science, c'est rien d'autre que c'est idrak ou shay bi haqiqatihi, c'est de percevoir la réalité d'une chose, d'une situation. Donc on parle de la science, lorsqu'on perçoit cela, ça c'est l'opposé de l'ignorance, mes chers frères et sœurs. Mais aussi, il faut comprendre que l'imam aussi, lorsqu'il reçoit cette science-là, cette science n'est pas aussi que la science de notre. Regardez lorsque le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que « Ana madinatul ilm wa aliyun babuha » Je suis la cité de la connaissance, Ali est la porte de cette cité-là. Donc cela veut dire qu'on ne peut atteindre la connaissance de Dieu sans passer par Imam Ali. Et Imam Ali, alayhi salam, il est le représentant direct du prophète, après le prophète des Ahlul Bayt, effectivement. Et les imams qui sont venus après lui, ils se sont succédés, ils ont hérité réellement de cette science-là d'Imam Ali, et c'est un don aussi divin. Donc la science qu'on parle de l'imam, il faut comprendre que l'imam, il a une science aussi qui est très active, mais une science aussi qui est aussi un don de Dieu, une faveur divine. Vous voyez, c'est ce que nous avons dit, que l'imam, il bénéficie de deux choses. Il bénéficie d'abord de la science divine, lorsqu'on parle de l'isma, de la science divine et le don divin. C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une science, comme il a accordé au prophète la révélation. La révélation, ce n'est rien d'autre, al-wahi, ce n'est rien d'autre qu'une science de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les imams aussi, effectivement, par l'héritage, ils ont essayé d'hériter cette science aussi du prophète. La science des imams ne s'oppose pas à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, lorsqu'on parle de la science des imams, cette science-là ne peut pas aussi faire des erreurs. Aujourd'hui, nous avons des sciences aujourd'hui, de l'espérance, il y a des scientifiques qui font de l'espérance aujourd'hui, et après quelques jours ou quelques années, ils prouvent réellement le contraire. Donc, l'espace aussi que occupe réellement la science de l'imam, c'est un espace réellement très grand et aussi illimité que nous ne pouvons pas comprendre. Et cette science-là, elle est utilisée que dans les enseignements islamiques à charia, et aussi utilisée aussi dans le domaine politique, dans le domaine économique et dans le domaine aussi de la gestion des affaires des musulmans. Et pas seulement ça, aussi le côté social, l'imam aussi utilise cette science dans ce cadre-là. Alors la question qui se pose, la science que les imams ont héritée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cette science-là, elle a un rapport avec les sciences industrielles ou pas? Aujourd'hui, nous avons des sciences, aujourd'hui, lorsqu'on parle de physique, l'astrologie, etc., la médecine. Et est-ce que réellement aussi la science industrielle a un rapport avec cette science-là que l'imam a hérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les imams ont hérité l'un de l'autre. Non, en réalité, est-ce qu'il y a parmi cette science-là la science de l'industrie ou pas? Et nous allons essayer de dire que les savants se sont, de façon unanime, ont dit que ça ne fait pas partie l'islam. Ici, l'imam, il gère la communauté d'abord avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous essayez de voir le Coran et vous n'allez pas trouver peut-être que la science des industries, etc. Mais quand l'imam, il y a un problème qui se pose entre les gens, il a aussi cette science-là. Mais ce n'est pas la science essentielle et basée sur ces éléments, lorsqu'il veut essayer de comprendre une chose, Allah subhanahu wa ta'ala peut aussi alors lui donner cette chance aussi de mieux comprendre. Et c'est ce qui est là, l'imam, sa science n'est pas tellement liée, accrochée à tout ce que nous avons aussi, la science de l'industrie. Bien sûr, lorsque vous regardez l'université d'imam Sadiq alayhi salam, où il y avait plus de 4000 élèves, et vous allez trouver qu'il y avait plusieurs, il y avait même des médecins, il y avait même d'autres, etc. Donc en réalité, imam, il donne quand on demande, quand il y a la nécessité. Mais quand il n'y a pas la nécessité, il ne l'utilise pas. Ce qui est plus important pour l'imam, ce n'est rien d'autre que les prescriptions qui se trouvent dans le Saint-Coran et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on regarde aussi la science de l'imam, on se pose la question, est-ce que cette science-là, elle est naturelle ou surnaturelle? Et vous allez trouver que, bien sûr, que la science de l'imam n'est pas naturelle comme la science de nous autres. Vous voyez? Donc, notre science est acquisitoire, mais la science de l'imam est d'une source divine et est inspirée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette science-là aussi, vous allez trouver que ce n'est pas seulement aussi le fait de parler que c'est une science divine qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le téléspectateur ne doit pas s'étonner de cette question. Et rien d'autre qu'il doit voir que aussi dans le Saint-Coran, il y a eu des gens qui ont eu la science et l'inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, et ceux-là n'étaient pas des prophètes ni des imams. Et il y a l'exemple de la mère de Moïse, Isa et Moussa, ala nabiyina wa alihi salam. Et vous allez trouver, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala Pharaon avait essayé de décider d'exterminer tous les garçons, tous les garçons qui naissaient de la communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'inspirer la mère de Moussa ala nabiyina wa alayhi salam. Il l'a inspiré afin qu'elle puisse envoyer à travers la rivière qui s'écoulait, à travers cette rivière-là, d'envoyer Moussa ala nabiyina wa alayhi salam à Pharaon. Ça, c'était un autre divin. Il y a aussi de ce côté aussi que lorsque aussi la mère de Jésus, Mariam alayhi salam, et vous allez trouver qu'alayhi salam, vous allez trouver réellement que les anges aussi parlaient effectivement avec la mère de Jésus, de Isa alayhi salam, mais qui n'était pas aussi prophète ni imam. Et vous allez trouver aussi Khidr aussi, le rapport de Khidr et la discussion, l'enseignement de Khidr entre Moussa et Khidr alayhi salam. Et vous allez trouver qu'effectivement il y a tout un enseignement, et le Coran nous a dit que nous avons donné une science particulière, nous avons accordé, lorsqu'on parle de Khidr alayhi salam, on dit que nous avons accordé une science particulière. Donc mes chers frères et sœurs, il est possible qu'Allah puisse accorder une science particulière à un quelqu'un qui n'est ni prophète ni imam, et ça ne doit pas vous étonner, mes chers frères et sœurs. C'est tout à fait clair que la science de l'imam est tout à fait une science qui n'est pas naturelle, qui est surnaturelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi, c'est une science qu'il hérite réellement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui peut vérifier cela, ana madinatul ilmu aliyun babuha. Et il y a aussi hadith al-thaqalain pour dire que je vous confie le Coran, et je vous confie réellement pour garantir votre foi le Coran et la famille. Cela suffit réellement, mes chers frères et sœurs, comme étant bien une preuve claire que la science que les imams ont, ce n'est pas une science aussi habituelle, une science naturelle que nous voyons aujourd'hui, mais c'est surnaturel, c'est spirituel, c'est divin, mes chers frères et sœurs. Et Inch'Allah, nous allons essayer de parler dans l'émission prochaine concernant Ilmul Ghaib, et sur la connaissance de la suite des choses cachées, et aussi Inch'Allah, et que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous accorder une longue vie. Et pour la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons parler de Ilmul Ghaib, la science cachée, et des imams, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs, je vous remercie et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.